environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras, François Porcheron.
Si vous nous rejoignez, nous sommes en Polynésie française, sur l'une des 118 îles de ce pays grand comme l'Europe, implantée au milieu du Pacifique. L'île de Mouréa est à 30 minutes de bateau de Tahiti et de la capitale, Papeete, une implantation idéale pour le CRIOB, l'un des plus éminents centres de recherche du Pacifique. Bonjour.
Bonjour et bienvenue au CRIOB.
Mais voilà, vous arrivez donc au fond de la vallée d'Oponou, sur l'île de Mouréa. Dans une zone un peu privilégiée où a été implanté le CRIOB et le centre de recherche donc depuis 1981.
Et vous êtes le directeur?
C'est ça, voilà, donc depuis une petite dizaine d'années maintenant.
CRIOB, ça veut dire?
Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement. Donc focalisé effectivement sur les questions d'observation, d'environnement et dans les milieux insulaires du Pacifique, bien sûr.
Il y a combien de chercheurs ici sur le site en ce moment?
Alors, sur le site, on a deux types de, je dirais, de catégories de chercheurs. Vous avez les chercheurs qui sont affectés, qui sont du CNRS, de l'École pratique des hautes études, et donc une petite dizaine qui sont affectés sur le centre de Mouréa. Et puis, vous avez les chercheurs qui viennent en mission ici.
Quels sont les points communs entre ces différentes recherches? Quelles sont, si on dresse les grandes lignes, les interrogations en cours sur l'écosystème marin ici?
Alors, tout d'abord, le CRIOB s'intéresse un peu à tout, même au milieu terrestre parfois, en fonction des programmes de recherche qui y sont. Mais c'est vrai que le focus principal, c'est sur le milieu marin et c'est sur le récif corallien, avec les principales questions des capacités de résilience du récif corallien, de maintien du récif corallien, dans un contexte de notre climat changeant, dans le contexte de notre planète qui change.
On va peut-être aller se promener un petit peu dans le centre, un petit peu plus loin. Là, j'ai aperçu des aquariums, parce qu'il y a beaucoup de recherches en cours. On peut peut-être aller voir de plus près.
Je vous en prie, avec plaisir.
Alors, on approche de différents aquariums. Alors là, par exemple, il y a des coraux qui sont numérotés. Et comment ça fonctionne, justement, le corail?
Ah, le corail, vous savez, c'est un animal, en premier lieu. Un animal un peu bizarre. C'est, moi, j'ai tendance à le décrire en étant tout simplement une petite anémone retournée, donc avec les tentacules sur le haut, et puis qui, autour, va construire un exosquelette, comme un squelette extérieur, dans lequel il va se protéger. Et puis, il a la particularité... C'est un animal, mais c'est un animal qui vit associé à une algue. Et cette algue unicellulaire, la zooxanthelle, pour dire son nom, je dirais un peu plus scientifique, c'est vraiment cette algue qui lui donne, quelque part, toute sa nourriture, toute son énergie, puisqu'on considère que les estimations montrent qu'il y a à peu près 80-90% des sucres qui sont produits par cette algue, qui sont transférés au corail lui-même.
Ici, en Polynésie, c'est un endroit où il y a beaucoup de coraux par rapport à l'ensemble du monde?
Alors, en surface, non. Les zones les plus importantes en termes de récifs coralliens, c'est les grandes barrières. La grande barrière de corail en Australie, mais vous avez aussi la grande barrière en Nouvelle-Calédonie, qui est une barrière également très importante. Et puis, toute la zone Indonésie, Philippines, Papouasie, qui sont vraiment les zones où il y a le plus de surface de récifs coralliens au niveau mondial. Dans le Pacifique, c'est intéressant. Ce sont des coraux qui sont développés autour des îles océaniques, volcaniques, avec... La formation ultime d'atoll, par exemple, qui sont quasiment plus que du corail. C'est assez intéressant, c'est des coraux qui sont loin, finalement, des pôles de forte densité humaine, et donc des coraux qui sont souvent assez protégés, en bonne santé.
Donc en Polynésie, ça va plutôt bien pour les coraux?
En Polynésie, ça va plutôt bien pour les coraux, si l'on accepte quelques îles comme Tahiti, ou un peu Moréa, ou un peu Bora Bora, les îles où il y a une activité humaine très importante, et donc automatiquement une interaction... qui fait qu'on crée des stress supplémentaires sur le corail.
Et à cela s'ajoutent les changements climatiques?
À cela s'ajoute ce qu'on appelle le stress global, c'est-à-dire le changement climatique, avec principalement deux impacts sur le récif corallien, l'augmentation de la température, où à ce moment-là, le corail en situation de stress avec une autre rochade va blanchir, tout simplement, et on a des mortalités très importantes. Et puis après, un contexte général également d'acidification de l'océan, beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère. Ce CO2 transféré dans l'eau entraîne une acidification de l'eau océanique. Alors c'est une petite chute du pH, mais cette petite chute est très importante parce qu'elle change les équilibres à l'intérieur de la cellule et la calcification, la production du calcaire dans lequel le corail se protège.
Tout à l'heure, on ira dans le lagon voir du corail in situ, mais au CRIOB, vous travaillez sur toutes les espèces marines. Quels sont globalement les impacts des changements climatiques sur cette biodiversité des océans ?
Alors, on n'en mesure pas tous les impacts actuellement. C'est des impacts directs, par exemple les problèmes de blanchissement du corail, mais c'est des impacts un peu plus indirects sur les capacités sensorielles de certains animaux. Certains organismes sont moins capables au niveau sensoriel de reconnaître une proie, de reconnaître un prédateur, et donc quelque part on déséquilibre toutes les fonctions de cet écosystème. C'est des petits éléments, un peu comme le battement de l'aile de papillon avec qui va se transformer, je dirais, avec une catastrophe à l'autre extrémité de la planète. On est un petit peu dans un système un peu identique, c'est-à-dire une modification assez subtile, quelque part, dans les comportements, qui peut entraîner des modifications très importantes dans la chaîne trophique, dans les fonctions de l'écosystème.
Mais plus que des disparitions massives d'espèces, c'est plutôt donc une modification des espèces elles-mêmes. Certaines vont réussir à s'adapter, d'autres moins.
C'est exactement ça. Ce qui est certain, c'est qu'on va avoir des gagnants et des perdants. Et les gagnants d'actuellement ne seront pas forcément les gagnants plus tard, c'est-à-dire les espèces qui dominent actuellement seront probablement d'ailleurs pas les espèces qui domineront plus tard. Ce que l'on observe, c'est aussi quand même une perte d'espèces. C'est-à-dire clairement, il y a des espèces qui, elles, ne s'adaptent pas du tout, ne sont pas capables, n'y arrivent pas. Donc on a des pertes de diversité. Qui dit des pertes de diversité dit aussi une fragilité de l'écosystème que l'on va provoquer.
Cet impact peut avoir des conséquences sur les activités humaines parce que ces écosystèmes nous rendent de vrais services.
Voilà, c'est ce qu'on appelle effectivement les services écosystémiques. Donc lorsqu'on parle de tourisme, lorsqu'on parle de pêche, lorsqu'on parle de protection, lorsqu'on parle de valeurs culturelles également du récif corallien par rapport à certaines sociétés, détruire le récif corallien, c'est finalement détruire aussi ces services qui sont rendus par cet écosystème aux sociétés humaines et par conséquent aussi fragiliser finalement les sociétés humaines.
Ici, vous êtes un peu les médecins des océans, finalement. Vous auscultez et puis vous essayez de prescrire des médicaments. On peut résumer ça comme ça ?
Médecin, peut-être pas, mais quelque chose qui s'en rapproche. On est surtout dans, effectivement, décrire les mots et proposer des solutions. Malheureusement, on a parfois un patient qui a du mal à prendre les médicaments qu'on lui propose parce que la société civile elle-même, elle a du mal, des fois, à comprendre la nécessité et l'urgence de certains systèmes.
Quelles sont les recherches en cours actuellement ici au CRIOB ? Là, on le voit bien, hein, il y a des aquariums partout, ça travaille ici, qui justement nous aide mieux à comprendre comment fonctionne ce malade océan.
Alors les recherches au CRIOB sont très variées, il y a actuellement plus d'une quarantaine de personnes, il doit y avoir actuellement à peu près une douzaine de projets différents qui se font. Alors vous avez des projets qui sont vraiment mieux comprendre la reproduction du corail, les systèmes, les déterminismes de cette reproduction du corail, mieux comprendre l'impact de certains stress, notamment effectivement la température de l'eau ou l'acidité de l'eau sur le développement des larves de coraux, mieux comprendre la fixation de ces larves de coraux, donc voilà pour l'aspect corail, mais également des projets sur des organismes différents, comme par exemple les lièvres de mer, des petites limaces, qui interagissent avec des algues, mais qui interagissent aussi avec des crabes, et regarder dans la chaîne trophique finalement l'impact que peut avoir un changement de la qualité de l'eau sur toute cette chaîne et non pas que sur un seul animal cette fois-ci, donc sur quelque chose de plus global. Après, il y a des questions qui sont liées à des aspects, par exemple sur les requins, mieux comprendre le rôle de ces top prédateurs et toute la régulation qu'ils entraînent sur les chaînes trophiques et les conséquences notamment d'une pêche excessive sur les requins, puisque la plupart des requins sont maintenant sur liste rouge et protégés. C'est le cas en Polynésie où toutes les espèces sont protégées à ce jour. Donc, chose très variée finalement.
Là, on a la chance d'être juste à côté du lagon. On va peut-être y aller.
Ce sera l'occasion de vous montrer où ont démarré les recherches sur Moréa et quelles étaient les questions il y a 40 ans, puisque le centre a maintenant un peu plus de 45. Et donc, ce sera l'occasion de vous présenter un peu comment ça a démarré et puis un peu l'évolution des questions de recherche qu'il y a eu au fur et à mesure.
Donc le temps de mettre un maillot et on prend quoi ? Nos masques et nos tubas ?
Masque, tuba et puis le maillot, une serviette, un bon t-shirt pour se protéger du soleil, une casquette parce que le soleil est assez agressif en Polynésie. Voilà.
Rendez-vous au bateau dans ?
Bon, une dizaine de minutes, un quart d'heure.
Ah, intelligent !
Ce qui est bien, c'est que dans ce CRIOB, je suis jamais, je fais jamais rien, mais finalement, je sers encore quelque chose. Hein.
Ton problème, t'es directeur.
C'est ça.
Voilà.
Serge, ça y est, on est arrivé là. Donc on est où exactement par rapport à Moréa?
Donc là on est sur la côte nord-ouest de Moréa, et c'est l'ancienne zone d'étude du Criob, qui est restée une zone d'étude à l'époque où le centre était donc sur la zone qu'on appelle le Tiaoura, où on a cette fameuse radiale que l'on appelle, c'est-à-dire en gros un transect, une ligne immatérielle qui va de la côte jusqu'à l'océan, et sur lequel on mesure depuis plus de 40 ans maintenant l'évolution du corail, du récif corallien, des poissons, de tous les organismes du récif corallien.
Et ça, c'est assez unique.
Ça, c'est relativement unique. Il y a très très peu d'endroits dans le monde où il y a des suivis aussi vieux, aussi longs, ce qui nous permet d'avoir des processus qui sont sur 10, 15 ans, 20 ans, qui sont en accord avec le temps de renouvellement d'un récif corallien, etc.
Donc on va aller voir les coraux, mais en arrêtant le bateau, il y a des raies, des requins qui sont arrivés autour du bateau. Comment ça se fait ?
On parlait tout à l'heure de service écosystémique, donc là on est vraiment dans un service écosystémique associé au tourisme, et donc il y a eu le développement ici de ce qu'on appelle un nourrissage de raies notamment, et ça permet finalement aux gens qui ne sont pas forcément très à l'aise dans l'eau, de découvrir des animaux que l'on pensait dangereux, méchants, agressifs, et de se rendre compte qu'ils font partie de l'écosystème, et ils font partie du système, et ils n'ont pas une volonté d'être agressifs vis-à-vis de l'homme. C'est une autre façon de découvrir le récif.
On va aller à l'eau ?
C'est maintenant.
Serge, ça y est, nous sommes sortis de l'eau, dans cet endroit absolument magnifique, l'eau turquoise, les requins et les raies qui nous tournent autour. Et on a vu beaucoup de coraux. Je ne suis pas du tout scientifique comme vous, mais est-ce qu'on peut dire que là, la zone est en bon état ?
Alors là, on est dans le lagon, au niveau de Moréa, donc on est à l'intérieur de la barrière. On est dans la zone où il y a beaucoup de sable également, donc il y a des patates de corail, du corail qui se développe, des poissons comme on a vu. Et donc c'est pour ça qu'on a toutes ces eaux un peu de toutes les couleurs, parce qu'il y a différentes profondeurs et du sable, à la fois du sable, du corail, donc c'est ce qui donne un peu toutes ces couleurs un peu extraordinaires. Et donc on est allé un petit peu plus loin, on s'est rapproché un peu de la barrière, on a pu voir du corail qui, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la barrière, est en meilleure santé, beaucoup plus oxygéné près de la barrière, donc toujours un corail beaucoup plus vivant près de la barrière qu'à l'intérieur du lagon. Et puis en ce moment, on était passé par une phase assez délicate pour le récif à Moréa, avec un cyclone, un peu de blanchissement, et puis aussi une étoile de mer qui avait mangé beaucoup le corail. Mais là, on est depuis quelques années, 3, 4 ans, 5 ans maintenant, sur une phase beaucoup plus dynamique, avec un corail qui a bien repris.
Et comment vous diagnostiquez la bonne santé du récif ?
L'indice souvent que l'on utilise, c'est ce qu'on appelle le recouvrement en corail vivant, c'est-à-dire en gros, sur une surface d'un mètre par un mètre, quel est le pourcentage qui est colonisé par du corail qui est vivant. Au-delà de 40%, je dirais, on est sur un récif qui commence à être en bonne santé. En dessous, c'est un récif de plus en plus dégradé. Par exemple, ici, lorsqu'on a eu le problème de l'étoile de mer qui a mangé le corail, on est descendu à des recouvrements qui étaient de l'ordre de 2 à 3%. Il n'y avait presque plus de coraux.
Et aujourd'hui ?
Là maintenant, le corail a bien repris. Là, depuis 4-5 ans, il est vraiment de nouveau très, très dynamique. Et du coup, on a des recouvrements qui sont aux alentours 30-40% avec un corail qui est bien vivant, qui reprend bien.
En tout cas, ce type de recherche sur les récifs coralliens a de l'avenir avec les changements climatiques.
Je dirais plutôt surtout qu'il est nécessaire de le continuer, parce qu'il est nécessaire de suivre un peu ces écosystèmes, comme la forêt équatoriale en Amazonie. Le récif corallien, ça fait partie des poumons de la diversité de la planète, donc c'est des écosystèmes qu'il faut absolument surveiller, suivre et s'assurer finalement que leur santé est bonne, parce qu'ils sont des témoins un peu de l'état de santé de toute la planète.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
a des VIP à bord. Oui, c'est des journalistes pour Radio France Internationale. Notre capitaine s'appelle Harry. Notre guide s'appelle Thierry. Dis bonjour. Our guy's name is Thierry. Say hi.
Nous sommes une dizaine de personnes sur le bateau avec Michael Poole, le chef de l'expédition. Tout le monde scrute l'horizon à la recherche de la baleine, des dauphins ou des tortues. On a déjà vu quelques tortues, mais la grande attente, c'est évidemment de voir des baleines et dans l'idéal, de pouvoir se mettre à l'eau pour partager un moment avec elles.
Allez là-bas. Harry, faut qu'on serait bien si on pouvait se mettre de l'autre côté.
Je m'appelle Michael Poole, d'origine américaine, mais ça fait 29 ans que je réside en Polynésie. Je suis un scientifique qui travaille sur les cétacés, les baleines dauphins. Et pour subventionner une partie de nos recherches scientifiques, j'ai démarré le whale watching en Polynésie en 1992.
Donc ce matin, on a eu la chance de voir des baleines, des dauphins, des tortues. Il y a beaucoup de biodiversité marine ici. D'où viennent les baleines que l'on voit ici?
En fait, les baleines viennent d'ici. Donc elles sont nées ici dans nos eaux, les eaux de la Polynésie française, qui est une grande découverte. C'est une population qui était inconnue avant nos études. Et nos études génétiques sur l'ADN de ces baleines montrent bien qu'il s'agit d'une population distincte génétiquement. Donc il ne s'agit pas des animaux qui sont venus ici de notre population, par exemple aux îles Cook ou les Samoa ou les îles Tonga, etc. Elles sont propres à la Polynésie. Et puis, pour se nourrir pendant l'été austral, elles rentrent vers les eaux froides de l'Antarctique, le pôle sud. Et chaque hiver, elles reviennent ici pour se reposer et se reproduire.
Et les baleines reviennent toujours là où elles sont nées?
Elles ne sont pas des saumons, comme des poissons. Donc, elles ne viennent pas forcément autour de la même île, mais elles viennent en Polynésie. Donc, les mêmes baleines qu'on a vues ici dans les îles de la Société, on a vu aussi aux îles Gambier, aux îles Tuamotu, aux îles Australes.
Vous faites des études pour connaître cette population. Il y a combien de baleines? On peut quantifier?
Notre meilleure estimation pour la population de la Polynésie française, pour cette espèce, la baleine zébrée, est environ entre 850 et 1250. C'est une toute petite population de baleines zébrées. Pour donner une comparaison de taille, à Hawaï, pendant un seul hiver, il y a plus que 10 000 baleines. Sur la côte ouest d'Australie, il y a plus que 30 000 baleines zébrées pendant un seul hiver. Depuis 20 ans ici, on n'a que 1050 différents individus. Donc c'est une toute petite population.
Et tous ces chiffres donnent l'impression qu'il y a beaucoup de baleines dans le monde, mais en fait, c'est faux.
En fait, les baleines zébrées étaient bien chassées comme les autres grosses espèces de baleines. Et le grand massacre a terminé en 1966 avec une réglementation qui a protégé ces animaux. Désormais, au monde, la baleine zébrée a bien remonté en nombre et sont plus en danger d'extinction.
Vous organisez des sorties de whale watching, donc de vision de baleines. Il y a des techniques particulières justement pour ne pas effrayer ces animaux ou pour ne pas les heurter ou pour ne pas prendre de risques?
Il y a une réglementation qui existe depuis 2002. Comment les bateaux doivent travailler en présence des baleines et dauphins? Les angles d'approche, la vitesse d'approche, les distances d'approche, tout ça. On n'a pas le droit de les approcher trop près ou trop brusquement. Et donc, si on travaille correctement avec eux, le plus tard de temps, ils sont très à l'aise. On a bien vu aujourd'hui, les dauphins, les baleines, c'était évident, il n'y a aucun problème avec notre présence.
Merci.
Merci à vous, merci beaucoup.
Je m'appelle Thierry Sommer, j'ai 49 ans.
C'est avec vous qu'on est allé voir les baleines ce matin. On était au-dessus, on les a vues remonter. C'était extrêmement impressionnant. On avait l'impression que vous avez une relation très intime avec ces mammifères.
Je les côtoie depuis l'âge de 6 ans. Je les ai côtoyés en 73, la première fois, avec mon grand-père. Et aussi mon père et des amis à lui. Et c'est toujours une découverte, même si je le fais tous les jours pendant la saison, aller voir les baleines, mais c'est jamais la même chose. Les conditions ne sont jamais les mêmes, il y a tout, même si c'est les mêmes individus que l'on voit le lendemain.
Est-ce que vous avez eu des vraies rencontres?
Des vraies rencontres? C'est tout le temps des vraies rencontres. Ce ne sont pas des... Tout est sublimé dans la mer. Toutes les rencontres sont uniques. Il y a une montée d'adrénaline, il y a... Voilà, on est sublimé, tout à fait, oui. Et... En plus de ça, les baleines sont les seuls animaux que je connaisse qui laissent leurs petits en présence de l'homme. On a vu aujourd'hui dans l'eau, normalement, que fait une femelle quand on approche de ses petits? Il les cache. Ou alors, elle éloigne les hommes des petits. Les baleines, les dauphins, ils font pas ça. Ils tolèrent d'une certaine manière notre présence dans l'eau avec elles. Et c'est ce qui est fantastique en plus. Combien de fois les baleineaux sont venus à côté des gens, les regarder les yeux dans les yeux. Voilà, c'est ça qui est fantastique. Un animal sauvage qui ne côtoie pas l'homme tous les jours, un animal qui a été chassé pendant des décennies, il y a une tolérance de ces animaux par rapport à nous, malgré tout ce qu'on leur a fait subir. C'est ça qui est pour moi aussi quelque chose de fantastique. Ouais.
Elle va de mieux en mieux déjà. On voit qu'il y a l'arrière de sa carapace qui commence à s'immerger. Parce qu'au début, quand on l'a mis dans la bassine, là, elle flottait carrément.
Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Alice Carpentier et je suis biologiste marin à l'association Te Mana o Te Moana.
Donc là, nous sommes dans la clinique des tortues. Vous étiez en train d'échanger avec votre collègue. Qu'est-ce qui se passe ici?
On est une clinique de tortues marines, donc dès que quelqu'un, un pêcheur ou peu importe, retrouve une tortue marine blessée en Polynésie française, on les rapatrie ici à la clinique, on les soigne et on les relâche.
Pour toute la Polynésie?
Alors pour toute la Polynésie, on a un partenariat notamment avec Air Tahiti qui nous aide à rapatrier les tortues gratuitement vers la clinique de Moorea. Donc ça nous permet d'accueillir des tortues qui viennent de loin, par exemple à Petahi qui est arrivé de Raiatea qu'on a libéré il y a 2 semaines.
Vous accueillez combien de tortues par an par exemple?
Alors, par an, je saurais pas dire. Depuis 2004, qu'on a ouvert la clinique des tortues, on en a accueilli environ 450.
Il y a beaucoup de tortues ici, en Polynésie.
C'est justement ça qu'on essaie d'étudier. On essaie de recenser toutes les tortues marines, notamment via l'observatoire. Savoir combien il y en a et est-ce que la population augmente ou descend. Par les témoignages des pêcheurs ou des locaux, on sait que la population descend. On voit de moins en moins de tortues marines ici. Après, aux chiffres, on peut pas encore dire pour le moment.
Et pourquoi la population descend ?
Il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de menaces aujourd'hui qui pèsent sur les tortues marines dans le monde entier. De ce qu'on observe, nous, à la clinique, le braconnage, qui est une grande cause. On a beaucoup de tortues qui arrivent avec des trous de harpon dans le cou, dans la tête. Une deuxième grande menace qu'on a ici, et qui est aussi le cas dans le monde entier, c'est le plastique, ou la pollution des océans.
Vous parlez de braconnage parce que la chasse aux tortues est interdite en Polynésie.
Elle est interdite, et les braconniers risquent jusqu'à 3 mois d'emprisonnement. 8 500 € d'amende et la saisie de tout le matériel de pêche qu'ils ont utilisé. Donc c'est souvent des fusils harpons.
Mais est-ce que c'est dissuasif? Parce que s'ils arrivent à attraper une tortue, combien ils la vendent?
Alors ils vendent souvent au kilo de viande. Ça va être environ 80 € le kilo. Donc ça peut leur faire un bon pactole d'attraper une tortue. C'est pour ça qu'ils continuent de le faire.
Et alors cette tortue-là, Edouard, elle est en train de patauger dans cette grande bassine bleue. Qui s'en occupe au quotidien?
On s'en occupe un peu tous, surtout qu'elle vient d'arriver, donc c'est les premiers jours de la tortue, on est tous très intéressés par ce qui lui arrive. Après, sinon, au quotidien, toutes les tortues en soins, en ce moment, c'est Maui qui fait le suivi, qui les nourrit, qui prépare la nourriture, et du coup, qui garde un œil sur chacune des tortues.
Bonjour Maui.
Bonjour.
Vous étiez juste à côté, là, vous regardez donc Edouard, cette tortue, elle va mieux?
Bah apparemment, ouais, visuellement, depuis qu'elle est arrivée, elle commence un peu à s'immerger parce qu'au début, quand une tortue arrive, elle est mise dans de l'eau douce pour éliminer les bactéries qu'elle a eues en milieu naturel. Et au début, on va voir qu'elle flotte. Ça, c'est dû au stress ou aux infections qu'elle a. Et au fil des jours qui vont passer, normalement, elle va devoir s'immerger petit à petit.
Et elles sont dans quel état, les tortues qui arrivent à cette clinique?
C'est surtout des tortues fléchées par les braconniers en Polynésie. Il y a aussi des tortues qui sont retrouvées flottant en surface. C'est généralement les surfeurs ou les pêcheurs hauturiers à l'extérieur des barrières qui les trouvent, qui les ramènent sur leur bateau. Et ensuite, ils nous appellent pour nous dire comme quoi ils ont trouvé une tortue flottant en surface et qui ne bougeait plus.
Qu'est-ce qui explique qu'une tortue se mette à flotter?
C'est souvent à cause de ce qu'elle a mangé, mais généralement c'est le plastique. La plupart des tortues qui arrivent ici, elles ont généralement du plastique à l'intérieur des intestins, ce qui fait que quand elles plongent, elles n'arrivent pas à vraiment atteindre le fond. Du coup, elles remontent en surface parce qu'elles consomment beaucoup d'énergie pour pouvoir aller au fond. Du coup, ça les empêche vraiment de bien atteindre le fond.
Bon ben, on va vous laisser travailler parce que toutes ces tortues vous attendent pour les soins là.
Oui. Pour les soins et pour le nourrissage aussi. Elles attendent parce que là, elles ont faim.
Merci.
De rien. Merci beaucoup à vous.
La richesse de cette vie marine impose l'humilité et le respect comme toute la biodiversité rencontrée sur l'île de Mouréa. Espérons que les gardiens des traditions, accompagnés par la recherche scientifique, arriveront à la préserver de la prédation du tourisme. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à élaborer ce reportage. Merci à François Porcheron pour la prise de son et la réalisation. Vous pouvez voir des photos et des vidéos de notre voyage sur la page Facebook et Internet de l'émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.
Musique du monde.